partir un petit peu du béaba, du départ, pour resituer toute notre vie dans ce pourquoi elle est faite, notre vie de baptisé, et reparler un petit peu du baptême, de qu'est-ce qui s'est passé à notre baptême. La plupart d'entre nous avons un souvenir assez vague et distant de l'événement même. On nous a dit qu'on avait été baptisé, on a peut-être vu des certificats de baptême attestés avec le stempel de la paroisse disant « il a été baptisé dans l'église de tel jour par monsieur le curé tel et tel ». Alors là, on sait qu'on est baptisé, mais que s'est-il passé en nous à ce moment-là? Parce que c'est important de reprendre conscience. Le pape avait dit à la France quand il était venu ce cri du cœur: France, fille aînée de l'Église, qu'as-tu fait de ton baptême? Qu'as-tu fait de ton baptême? Quand il est revenu ensuite en France, quand il a rencontré les jeunes, plusieurs fois il a posé la question: mais que faites-vous de votre baptême? Que faites-vous du grand don de votre baptême? Qu'est-ce que ça signifie pour vous d'être baptisé dans la mort du Christ et de partager avec lui la gloire de la résurrection, la joie de la vie éternelle? On va commencer bientôt une année eucharistique. Vous savez qu'il y a 3 sacrements qui signifie l'initiation chrétienne, ce qu'on appelle l'initiation chrétienne, le baptême, la confirmation qui achève le baptême. Dans la tradition orthodoxe d'ailleurs, la confirmation, c'est-à-dire ce don particulier de l'Esprit-Saint, se fait directement après le baptême, y compris chez les enfants. Pour nous, on distingue les 2 sacrements qui ont une certaine unité malgré tout, en voyant l'aspect missionnaire à travers le sacrement de la confirmation. Et puis l'Eucharistie, ce sont les 3 sacrements de l'initiation chrétienne. Ensuite, les autres sont les sacrements de la mission chrétienne, le mariage, sacrement de l'ordre, et puis le sacrement de la guérison chrétienne à travers le sacrement de la réconciliation, de l'onction des malades. Ces 3 sacrements qui nous constituent fondamentalement en tant que baptisés, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens. Il faut régulièrement se faire une piqûre de rappel et puis se dire: mais qu'est-ce que ça veut dire d'être baptisé? Reprendre conscience du don extraordinaire qui nous a été fait à notre baptême et de savoir ce que ça signifie, qu'est-ce que ça implique dans notre vie quotidienne. On avait un jour à la chapelle du C célébré un baptême avec des jeunes enfants. Ils avaient déjà, je pense, 5 et 8 ans comme ça. C'était un vieux missionnaire qui rentrait de mission, il avait passé toute sa vie aux Seychelles, qui était venu célébrer le baptême, tout lumineux, tout bon et avec un feu. Et puis à la fin, il s'approche des enfants et dit: voilà, maintenant vous n'êtes plus des petits sauvages, vous êtes des enfants du bon Dieu. Oui, on n'a pas très bien compris ce que ça voulait dire. Lorsqu'on disait ça dans d'autres contextes, ça paraîtrait peut-être un petit peu particulier, mais il avait raison. Cet apprivoisement de l'homme par Dieu à travers le sacrement du baptême. Alors on est obligé de remonter un peu plus haut pour comprendre le baptême. Adam et Ève, au départ de l'humanité, au départ de la création, pour voir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi avons-nous eu besoin d'être restaurés dans l'intimité de Dieu à travers la personne de Jésus et dans le sacrement du baptême, communion avec lui à sa mort pour renaître à la vie nouvelle. C'était tout le sens du baptême. Vous savez que les baptistères au début de l'église, on en trouve encore dans les églises, à la basilique de Saint-Maurice, il y en a un derrière, un peu de ce type-là, un peu plus petit, mais dans les églises anciennes, on rentrait à l'ouest et on descendait des escaliers, on arrive dans une sorte de grande piscine comme ça, enfin un grand bassin, on était complètement immergé et on ressortait à l'est avec le Christ. C'est vraiment la symbolique d'être plongé dans les eaux de la mort pour rejaillir vivant avec le Christ qui est ressuscité le 3e jour, sortant du tombeau, et par cette résurrection redonnant vie à toute l'humanité, redonnant la vie de Dieu à l'humanité, cette vie qui avait été perdue par justement le péché originel. Et c'est là que on va revenir un petit peu à ce qui s'est passé au début, parce que on comprend plus rien, je vous disais tout à l'heure, si on ne revient pas aux origines. Or les origines, cet extraordinaire plan d'amour de Dieu qui veut faire partager à des créatures libres son amour infini. Ils se plaisent bien, le Père, le Fils et le Saint-Esprit entre eux. Parfait, comblé. On a beaucoup de théories aujourd'hui, notamment à partir de Hegel, mais déjà avant, qui disait que Dieu avait besoin de la création comme l'océan a besoin du rivage pour exister. Vous savez, Dieu qui ne se suffit pas à lui-même, qui s'embête peu, alors il doit créer. On a souvent cette conception, Dieu a besoin de sa créature. Il veut avoir besoin de sa créature, mais par amour, pas qu'il en ait besoin en lui-même, vous comprenez bien. Dieu se suffit en lui-même, mais à un moment donné, ce débordement d'amour qui habite le cœur trinitaire de Dieu veut être partagé avec des êtres libres. Et c'est ainsi que Dieu va commencer l'œuvre de la création, en créant d'abord les anges, en créant cet univers entier, pour recevoir au cœur de l'univers, sur une petite planète qui s'appelle la Terre, des hommes qu'il créera à son image et sa ressemblance. Il les créera hommes et femmes. Cette création de l'homme et de la femme, cet émerveillement de Dieu, Dieu vit que c'était très bon devant ces êtres libres. Ils avaient non seulement créé dans leur nature humaine, c'est-à-dire une nature à la fois physique, matérielle et spirituelle, avec une âme spirituelle, avec une volonté, une intelligence, mais il les avait encore donné un plus, qu'on appelle des dons surnaturels ou parfois préternaturels. C'était une sainteté originelle, une justice originelle.